Bon vendredi matin à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le début de la fin de semaine, en tout cas dans nos têtes. Il reste quelques heures à travailler pour la plupart d'entre vous. Et le week-end s'en vient. Il paraît qu'il va faire beau demain et froid. On a pas mal de choses à discuter pour les deux prochaines heures. En deuxième heure d'émission, je vous le dis tout de suite, restez à l'écoute. Parce que si vous vous intéressez à tout ce qui se passe dans le crime organisé, on peut dire qu'en ce moment... Ça brasse pas mal. Il y a des purges, il y a des règlements de comptes, il y a du monde qui meurt. Je veux dire, c'est comme un film. Alors, on va tout à l'heure revenir, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche dans ce milieu-là. C'est quand même assez fascinant de voir que les policiers, parfois... Vous savez, l'autre jour, on essayait d'évaluer si on était trop sévère avec les policiers parce qu'on se demandait si, parfois, il n'y en a pas qui dorment au gaz. Mais là, on a la confirmation que, voyez-vous, hein, ils travaillent, puis ils arrêtent des mauvais, ils arrêtent des méchants, des criminels. On va avoir un ex-inspecteur du SPVM qui va nous dire un peu comment ça se fait, ce genre d'opération-là. Moi, je trouve ça très intéressant, très fascinant de savoir comment la police procède. On aura également Pierre Huet. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Pierre Huet? C'est sûr que si vous êtes un fan de Beau Dommage, si vous avez chanté des tunes de Jerry, mes blouses passent plus dans la porte, c'est sûr que vous connaissez Pierre Huet. C'est lui qui a écrit cette tune-là. On va la voir vers 11h30 en entrevue sans filtre. Il va nous parler de l'humour aujourd'hui versus l'humour d'hier parce que ils viennent de refaire le magazine Crow. Connaissez-vous ça, Crow? Là, je dis connaissez-vous ça parce que c'est sûr qu'il y a une gang de plus vieux qui ont ri, qui ont grandi en humour avec Crow. Puis il y a les plus jeunes qui le découvrent puis qui disent « Ah, mon Dieu, ils sont donc virulents ». On aura Pierre Huet donc tout à l'heure. Et en première heure d'émission, je vais vous présenter deux personnes que vous connaissez bien. On les a appelés les dragons en référence à cette émission à laquelle ils ont participé. Daniel Henkel et Nicolas Duvernois sont deux entrepreneurs qu'on peut dire qui ont réussi en affaires, mais qui continuent de travailler fort et qui sont des modèles inspirants pour toute personne au Québec qui a envie peut-être de mettre en pratique sa méchante bonne idée. Puis je sais des méchantes bonnes idées, vous qui nous écoutez, vous êtes convaincus d'en avoir au moins une. C'est vrai que des fois, on se trouve bien bon. T'sais? Mais est-ce que notre idée est aussi bonne? Ça, c'est l'autre affaire. On va donc discuter de ça dans la prochaine heure. L'idée du siècle, hein, pour se lancer en affaires. Oui, mais laquelle et surtout comment y arriver? Comment savoir si c'est l'idée du siècle, justement? Nicolas Duvernois, merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Merci, Daniel Henkel, d'être avec nous. Vous avez chacun, tous les deux, vous venez de publier un livre.
Oui.
Ça tombe-tu bien?
Ouais. Faut acheter les deux, c'est ça qui est le fun.
On s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups. Voilà. Daniel Henkel qui vient de publier « Ces différences qui nous rassemblent ». C'est un livre, en fait, Daniel, où vous nous expliquez un peu vos opinions sur plein de choses, dont votre vision de l'entrepreneuriat.
Oui.
On va y revenir, bien sûr. Nicolas Duvernois, ben, c'est pas ton premier, hein, Nicolas. T'as écrit déjà sur...
Oui, « Entrepreneur à l'état pur ».
Voilà. Ouais. Et là, ben, j'aime beaucoup le titre. « Vive les idées folles ». Puis les idées folles, c'est toutes ces idées qu'on dit « Oh mon Dieu, fais donc pas ça
hein, ». Exactement.
C'est un peu ça que tu dis dans
Exactement,
ton livre.
Ouais.
Tu dis « Les idées folles », c'est un peu... Finalement, tout ce que tu as fait, ça a été un peu des idées folles comme ça.
Ben moi, le titre a tellement été facile à choisir parce que c'est la phrase que j'ai entendue le plus souvent dans ma vie. Dès que j'ai une idée, le monde sont comme « Mais non, c'est une idée folle ». Fait que finalement, j'ai découvert que c'est une excellente nouvelle quand tu as une idée folle.
Ouais, quand même, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite leçon d'humilité dans ton livre parce que tu nous parles beaucoup des autres idées. Mais t'sais, ta première idée
marché.
Folle, c'est de se partir en restaurant.
Ouais.
Tu appellerais une couple de personnes qui ont des restaurants. Tu l'aurais su que c'était peut-être pas l'idée du siècle. T'aurais peut-être expliqué comment ça marche.
Ouais,
mais toi, c'est drôle parce que tu dis, on est une gang de gars, on allait tellement manger au restaurant souvent qu'on s'est dit...
On va ouvrir un restaurant. Ça va coûter moins cher.
On doit être bon là-dedans, tu sais.
Ouais. Non, comme... mais j'adore dire, j'ai ouvert un restaurant, mais pour tout vous dire, je l'ai surtout fermé.
Ouais, c'est ça.
Mais, tu sais,
est-ce que c'était ta pire idée folle?
Oh non, mais sans blague, quand je fais le décompte de mes succès, de mes échecs, j'ai beaucoup plus d'échecs que de succès, là.
Ben oui, j'ai compris ça dans ton
mais,
livre. Ce qui était très rassurant, finalement.
Oui, non, mais c'est ça. Surtout au Québec, où on a peur de l'échec, oui. Oh mon Dieu. Oui. On dirait que c'est une maladie. C'est pas agréable. Je ne glorifie pas l'échec, mais c'est normal.
C'est une expérience.
Ben oui, puis c'est normal.
En même temps, tu sais, je disais ça, puis je me disais, oui, t'as le beau jeu de dire, mon Dieu, j'ai eu plusieurs échecs avant de réussir, mais t'as réussi. Là, tu réussis.
Oui, oui, oui.
Ah, puis je te souhaite que ça continue.
Merci, oui, effectivement.
Mais c'est sûr que si tu restes sur un échec, c'est là où t'es vite catégorisé, hein, Daniel Henkel, loser.
Absolument.
Loser fini, puis là, même tes amis te regardent de travers et disent pas sûr qu'on l'invite encore à nos dîners. Tu comprends?
Oui, mais c'est le jugement. Ouais. C'est le jugement, et encore une fois, c'est rattaché à la peur. La peur d'être nous-mêmes jugés parce qu'on se tient peut-être avec quelqu'un qui pourrait être perçu comme un loser. Mais là où je voudrais en venir, puisqu'on parle des entrepreneurs,
ouais.
C'est que pourquoi est-ce qu'on est aussi dur avec les entrepreneurs. Je veux dire, quand on y pense bien, et j'ai pas arrêté d'en parler, j'arrêterai pas d'en parler, je dis que je suis en amour avec cette, entre guillemets, race de personnes qui sont un peu hors normes dans tout ce qu'ils font, la façon dont ils le font, et que lorsqu'ils se lancent en affaires, ils prennent de gros risques, des risques personnels, des risques familiaux, des risques économiques, mais on les applaudit lorsqu'on les reconnaît, ou quand ils ont un succès quelconque, mais on leur tombe dessus à la minute où ils ont un échec. Mais bon sang, bonsoir, c'est leur échec, c'est leur succès. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on est si dur avec eux? Ils prennent rien à personne, ils vivent des échecs, peut-on au moins les aider à passer au travers. C'est des êtres humains qui vivent des moments difficiles et de plus en plus en ce moment, on est incapable de connaître ce que demain sera économiquement avec tout ce qui se passe dans le monde.
C'est vrai qu'on est très sévère, c'est vrai. Puis notre sujet, c'est pas c'est pas l'échec là.
Non.
En fait, l'idée, notre sujet, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pour être convaincu que notre idée est une bonne idée. Puis on va y venir, mais je peux pas faire autrement puisque en plus t'en parles dans ton livre, Nicolas. Mais toute l'affaire Caroline Néron, puis je dis l'affaire Caroline Néron parce que c'est devenu vraiment ça,
une affaire,
comme ça.
Oui.
Et c'est-à-dire que elle était en affaire, mais on en a fait une grosse affaire du fait que cette fille-là a fait faillite, a dû fermer. Et je les connais un peu pour savoir que si c'est comme dans n'importe quelle entreprise, c'est jamais de gaieté de cœur. Puis tu te démènes comme des fois une diablesse dans l'eau bénite pour essayer d'arriver. Mais c'est vrai qu'on s'est comme beaucoup gargarisé. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez.
Mais c'était une victime facile aussi. Le plus tu te mets de l'avant, positivement ou négativement, là, c'est pas pour la juger elle, mais c'est sûr que c'est une personne très extravertie, c'est une personne qu'on voyait partout. Donc, le plus tu te mets à risque aussi, que le jour où ça va mal.
Mais comme toi et moi.
Exactement.
On est en avant, tu es en avant.
On a une pression supplémentaire.
Vous pensez que vous seriez aussi jugement, sévèrement jugé?
Non, mais pas nécessairement parce qu'on met pas nécessairement les mêmes trucs de l'avant sur nos réseaux sociaux, sur nos quand je parle d'affaires, moi, tu sais, je parle la majorité du temps de ma vie, mes posts ou tout ça, ça parle du monde des affaires et puis des succès puis des complications,
échecs,
exactement. Mais c'est sûr que c'était un beau personnage d'un film là, que tu prendrais puis que tu peux varger dessus, entre guillemets, facilement. Là.
Ouais,
mais
ouais.
Ce que je veux dire, c'est peut-on...
Tristement, là.
Ouais.
Oui, mais peut-on simplement être plus ou moins, je dirais, tabler dans son humanité? C'est une personne qui, peu importe ce qu'elle a fait, ça lui appartient. Honnêtement, ça lui appartient. Parce que ses succès lui appartenaient. Je parle d'elle, mais je peux parler de n'importe quel autre entrepreneur. Leur succès leur appartient, leurs échecs leur appartiennent avec leur famille. Pourquoi doit-on les enfoncer encore plus? Peut-on les laisser vivre ces moments difficiles et puis laisser-les aller? Je veux dire, ils ont fait de mal à personne. Peu importe. C'est leur vie.
Mais c'est surtout que ça fait 10 mois, là, tu sais, à un moment donné, lâcher là. Là. Est-ce que je suis d'accord ou certaines de ces actions qu'elle a faites? Non.
Mais
passons au prochain appel, là, tu sais, à un moment donné.
Mais tu sais, c'est toujours facile de dire. Tu sais, il y a beaucoup de gérants d'estrade d'entreprise au Québec. Hey, moi, si j'étais à sa place, je te dis que j'aurais pas investi là-dedans, j'aurais pas fait ça. C'est sûr que c'est toujours facile après de juger. Dans ton livre, Daniel, tu écris derrière chaque risque ou menace se cache une opportunité. À nous de la saisir. C'est depuis toujours ma devise.
Absolument.
Donc là, on vient à toucher le cœur de notre sujet. Il y a un risque, mais il y a une opportunité. Comment savoir si, le risque en vaut la chandelle? Comment savoir si le risque qu'on va prendre est véritablement bien calculé?
On ne sait pas. Ça, là.
Tu sais pas.
Non. Tu peux simplement le calculer au mieux de tes connaissances, avec le maximum d'informations que l'on obtient basé sur la décision ou les décisions qu'on doit prendre.
Mais il y a quelque chose d'organique là-dedans au début.
Mais
c'est humain. Moi, la prise de décision, c'est humain. Moi, quand j'ai eu l'idée de faire la vodka, c'est la seconde où j'ai découvert qu'il n'y avait aucune vodka produite au Québec. Quand j'ai eu l'idée de faire les recettes
complètes. Mais tu connaissais rien.
Je connaissais absolument rien, mais ça, c'est pas grave. On apprend. Tu sais, je voulais pas être astronaute là où il fallait que tu aies des études et tout ça. Bâtir une entreprise aujourd'hui, surtout, moi, je suis né dans la génération Internet. Tu vas sur comment faire de la vodka, puis tu trouves 300 000...
googlé comment faire de la vodka.
En toutes les langues, juste
pour être
sûr.
Comment qu'on fait ça, finalement?
La vodka, c'est tellement simple, c'est un alcool de grain. Nous, on dit que c'est du maïs et de l'eau. Donc, franchement, c'est... Oui,
écoute,
c'est ça.
Écoute, Daniel, comment se fait qu'on n'a pas
exactement appris ça?
Mais j'adore que tu dis cette phrase-là parce que c'est exactement ça. Souvent, on se met une pression énorme. Combien de jeunes entrepreneurs on rencontre ou de moins jeunes qui veulent se lancer en affaires puis ils ont dit, j'ai pas trouvé l'idée du siècle. Elle, une de mes idées les plus folles que j'adore dans l'histoire de l'entrepreneuriat, c'est un gars qui s'est levé un matin puis qui a décidé de mettre des roues en dessous d'une valise. T'as pas besoin d'être chirurgien cardiaque, là. Ou il y a une personne, à un moment donné, qui avait un restaurant, puis s'est dit, tu sais quoi, je vais faire un trou dans le mur, puis je vais passer la bouffe par le trou. Ça a révolutionné notre manière de vivre.
Complètement.
Donc, ne vous mettez pas la pression de vouloir réinventer la planète quand vous lancez en affaires. Juste regardez à gauche quand tout le monde regarde à droite.
Oui, mais j'ajouterais peut-être quelque chose.
Mais toi,
aujourd'hui,
c'est un gant, Daniel.
Ah, mais oui, le gant d'exfoliation, parce qu'il n'y en avait pas. Ouais. Même quand j'ai parlé du gant, les gens me disaient un gant de baseball, un gant de soccer. Non, mais sérieux! Parce que le mot gant pour exfolier, ça n'existait pas. C'était la mitaine, tu vois, pour la neige. Et donc, c'est là où j'ai confronté cette éducation qu'il fallait faire.
Attends, s'exfolier, là, c'est une autre affaire.
I know.
Ça, t'avais le gant, t'avais le principe de t'exfolier la peau. Hein, quoi? Faut se frotter.
Hein, quoi? Ça roule.
On était loin du hammam, là.
Ben non.
On n'était pas là du tout ici au Québec.
Du tout. Mais persévérance, résilience, compréhension et d'être convaincu
que
tu fais la bonne chose. Ouais. C'est surtout ça. Et là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, l'idée du siècle aussi, faut faire attention parce que nous sommes aujourd'hui une société partout, mondialement, où on est beaucoup plus interpellé par tout ce qui a à voir avec l'environnement. Ouais. Donc, on peut plus faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Je veux dire, faut quand même faire attention à ce qu'on met sur le marché, à quoi ça sert. Et parce que ton client, aujourd'hui, veut acheter quelque chose qui sert. Ouais. Quelque chose qui est noble.
Purpose-driven, comme ils disent aux États-Unis.
Voilà. Ouais.
Et d'ailleurs, je l'ai écrit, je ne me rappelle plus si c'est dans mon livre ou dans une de mes chroniques dans les affaires, mais que les prochaines compagnies milliardaires à la Facebook et tout ça, ça va être des compagnies qui vont répondre à un besoin environnemental urgent qu'on a en ce moment. Moi, mon rêve, c'est de trouver une manière de comment ramasser le plastique dans les océans.
Voilà.
Ça, c'est une vraie business. Ouais. Tu sais, tout le monde veut faire des applications mobiles, des affaires comme ça. Trouver une manière de pouvoir ralentir la pollution qu'on fait.
Et je vais vous parler d'une série documentaire que je suis en train de regarder. Là. Sincèrement,
Black Mirror?
Non, j'ai regardé ça. Non, j'ai fini la saison 3 de Stranger Things. J'attends la quatrième. Non, je vais vous parler d'une série documentaire sur Bill Gates.
Il
s'appelle Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates. Puis on peut penser plein de choses de Bill Gates, mais on va poursuivre là-dessus après la pause. Puis pourquoi je vous parle de Bill Gates? Vous allez voir, c'est tout à fait en lien avec notre sujet, l'idée du siècle pour se lancer en affaires. Oui, mais laquelle et surtout comment l'appliquer pour réussir? On a des conseillers fabuleux ici. C'est gratis.
Exact.
Donc, profitez-en. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils peuvent peut-être. Il n'y aura pas de consultation d'entrepreneurial très ciblée, mais vous pouvez quand même vous lancer dans des questions de base qui vont faire comprendre un peu à tout le monde qui nous écoute.
Et moi,
en ce
je cherche un partenaire pour une idée folle que j'ai, donc je vais en parler.
Es-tu sérieux?
Oui, n'importe qui trouve la solution. À mon problème, je suis
partenaire. Mais il y a la solution quelque part.
Tu sais, quand on vous dit vous êtes à la bonne place ce matin, changez pas de poste, les amis, bougez pas, touchez à rien, au pire, vous téléphonez.
Moi aussi, je vais faire passer mon message.
514-790-9850 et sans frais, vous faites partout le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. On a pas mal de gens qui veulent intervenir, alors c'est super, on va vous donner la parole. Vous pouvez nous joindre dans la grande région de Montréal en faisant le 514-790-9850 et sans frais partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Alors, notre discussion sur l'idée du siècle vous a donné envie de nous appeler. Vous voulez un conseil en entrepreneuriat? Vous avez l'idée du siècle?
On est là,
J'avais l'idée du siècle.
OK.
En 2014, j'ai eu comme une idée saugrenue parce que je cherchais des tissus et que je magasinais toujours aux États-Unis après des milliers de dollars d'importation pour mes besoins personnels. J'ai eu l'idée de faire une plateforme. Moi, je vais dire une plateforme, je dis plateforme pour regrouper tous les petits magasins qui n'ont pas les moyens, puis la capacité, puis le personnel pour se mettre en ligne. Je dis, j'adore la programmation, je suis une touche à tout, j'adore la couture, j'adore tout ça. Fait que j'ai élaboré mon projet, mais avant d'aller offrir mes services à de petits magasins, il fallait quand même que je sois en ligne puis que je démontre que ça fonctionne. Ça fonctionne, mais pas vraiment pas à la vitesse que je veux. Je suis toute seule. Puis là, je tire le yard. Tu sais, c'est ça. Je touche à tout. C'est peut-être le problème. C'est peut-être mon défaut, c'est d'être capable de faire.
Mais si je vous demandais en une phrase de définir, parce que je sais que Nicolas puis Daniel vont vous le demander, si vous aviez à définir en une phrase, c'est quoi ce que vous vendez, c'est quoi? Moi, parce que là, vous là, en avez parlé, puis j'essaie de comprendre.
OK. À la phase 1, c'était... La phase 1, c'est un commerce en ligne de tissus. Où est-ce que je vends des tissus? Que j'importe, que je vends des tissus en ligne mm-hmm. au commerce de détail pour aller... Le but, c'était d'aller à la phase 2, puis d'aller offrir mes services informatiques pour aller en ligne, pour les petites boutiques, okay. pour qu'ils viennent. Pour justement, je me dis, il y a ouais. plein de tissus qui meurent à travers la province, dans le fond des...
Fait que vous êtes dans le vêtement, vous êtes dans le commerce en ligne, vous êtes
commerce en ligne.
Fait que c'est, est-ce que vous tirez vous dites je suis toute seule, c'est pas évident, donc êtes-vous dans une phase découragement, on tire la plug?
Ah, oh, j'ai trébuché plusieurs fois. Cet été, je fermais tout, je braillais. Et bon, ben, ça remonte, il se passe quelque chose. Ah, OK, je continue. J'ai aussi je fais partie maintenant du programme de commerce électronique qui a été lancé il y a 2 ans par le gouvernement. Mm-hmm. Ça aide, parce que justement, là, ça a été un gros coup de pouce. Mm-hmm. Là. Ça m'aide justement au niveau informatique, les lacunes que je pouvais avoir, parce que là, c'est pas juste la programmation, c'est le SEO, c'est tout.
Mais je pense, Mireille, que vous vouliez demander à nos invités à partir
quand
de quand.
Que je tire la plug?
Voilà.
Oh my God, c'est tellement si personnel comme question.
Plug, je le sais. Puis je peux pas demander à mes proches.
Mais justement, Nicolas Duvernois, dans son livre, t'as une, je sais pas, c'est dans une de tes chroniques. Oui, c'est dans une de tes chroniques vers la fin du livre où tu dis quand est-ce que le nombre de fois où j'ai eu envie
ouais.
d'échouer.
Ouais. Ben il y a deux trucs. T'sais, premièrement, il y a
où j'ai eu envie différente. Justement de, ouais. de tirer la plug.
Puis je trouve que c'est important de faire une différence entre abandonner et savoir quand arrêter.
Oui, c'est ça.
Il y a une expression que j'aime bien qui dit qu'un bon entrepreneur sait quand rentrer dans une industrie, un excellent entrepreneur sait quand en sortir.
Oui.
Cette décision-là, elle vous appartient. C'est sûr que oui. il y a des signes qui mentent pas, peut-être, si vous devenez presque malade.
Moi, c'est surtout
c'est
là que
complexe.
J'irai.
Ouais,
moi, c'est
ça.
Là que j'irai, Nicolas. C'est vraiment qui est le plus important.
Ouais.
Le fait de pousser jusqu'à la lie, jusqu'à ne plus être capable d'être bien soi-même,
exact.
Mentalement, physiquement,
ouais.
ou c'est vraiment parce que c'est une passion qui dépasse, en fin de compte, vos propres aspirations. Moi, je dirais, à partir du moment où vous ne dormez plus, à partir
où
du moment
où tu
n'as plus de fun du tout,
ouais.
ben, je pense que c'est le temps de passer à autre chose. Ouais, et puis de revenir, peut-être même plus tard, ce n'est pas grave.
Oui, ou de se réinventer d'une autre manière. Oui, ouais. oui, non, définitivement. Ouais.
Voilà pour vous, Mireille. Merci d'avoir appelé. Mélanie, bonjour.
Bonjour.
Allô,
vous
allô?
Écoute? Oui, on vous écoute.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, on vous entend bien. On vous entend bien.
Bon, parfait. Bon, mais super. En fait, moi, c'est juste que ça m'a vraiment interpellée parce que j'ai fait le choix de devenir entrepreneur il y a 3 ans en quittant vraiment un emploi sécure au gouvernement et de faire le saut un peu dans le vide en faisant ma business. Moi, je suis à Tupperware. Donc, maintenant, je fais Tupperware à temps plein depuis. Et je trouve ça le fun parce que quand tu te sens vraiment à ta place, ça fait vraiment une différence, je trouve, dans nos actions. On se pose plus autant les mêmes questions que quand on est employé. Puis en plus, ce que j'aime, c'est que je pense que l'internet tantôt il le dit, on est dans une recherche de solutions pour l'environnement. Puis je trouve que cette solution-là de ma business maintenant, ben, ça inscrit super bien dans tout ça. Fait que je vois de l'avenir super gros pour le commerce, même si ça fait quelque chose qui fait longtemps que ça existe. Et maintenant, c'est comme si on l'amène d'une autre façon qui apporte des besoins, qui répond vraiment aux besoins des gens maintenant.
Merci.
C'est ce que je me disais. Puis j'adore le fait d'être entrepreneur. Là, ça fait vraiment une
félicitations.
Ouais. Merci beaucoup, ouais. Mélanie. Merci bien. Guy, bonjour.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Oui.
Oui, OK. Moi, j'ai été entrepreneur au niveau de la restauration. Je ne le suis plus. Par contre, pourquoi que j'appelle? C'est parce que moi, pour développer des idées, j'en ai pas de problème. Juste donner un petit exemple ou deux comme ça à travers tout ça. Bon, je suis en train de développer un pinceau qui va découper 2 murs de 2 couleurs différentes, one shot.
Ah! Okay.
J'adore
j'ai
ça.
Ben, un autre concept que j'aurais au niveau de la restauration, parce que peut-être que je ne retournerai pas dans ce milieu-là, mais j'avais développé un autre concept qui consistait à faire, c'est juste des hot dogs, mais un grec, un libanais, un québécois, un pour les enfants.
C'est
non,
beau!
Non, mais on s'en va dans une autre affaire.
Moi, vous m'avez eu un hot dog, donc...
Moi, je dois être là, je suis encore sur les pinceaux de couleur. Je me dis, OK. J'avais pas comme compris qu'il y avait un besoin super gros, mais peut-être, ça peut être un marché de niche.
Ben,
mais vous allez rire.
Toutes les années, le monde qui déménage, qui font de la rénovation, c'est énorme.
Ouais.
Mais votre idée d'hot dog me fait penser à une idée que j'ai eue à un moment donné, puis là, le monde va rire de moi. Okay. Mais moi, je voulais mélanger, ben, parce que je voulais manger, une poutine et une pizza. Oh, comment faire une pizza ou une pizza, ben, poutine, je sais pas quoi. Je sais que là, Nautilus Plus va pas m'aimer avec cette idée-là.
Non.
Mais sincèrement, je crois qu'il y a un marché.
Oui.
Ben, mais tu peux être surpris.
C'est international aussi.
Oui, mais c'est vrai, Guy, dans le fond, il n'y a pas de... C'est quoi votre idée en ce moment, là? Vous diriez votre idée du siècle?
Moi, c'est parce que j'en ai un livre plein. Regarde, je suis en train de travailler. Non, mais c'est sérieux, c'est juste que je n'ai pas les compagnies, je ne sais pas où m'adresser, parce que là, je suis en train de sortir. Les rideaux de douche, c'est fatiguant à un moment donné.
Oui.
Fait que donc, je suis en train de faire un peu comme le système d'une toile qu'on descendait dans le temps, blanche là, pour les fenêtres.
Oui.
Mais sauf qu'elle est sur la verticale. On peut mettre un motif. On zip ça. Quand on a fini, elle rentre à l'intérieur. Elle s'essuie toute seule avec des caoutchoucs comme sur le côté. Là. C'est un exemple que je vous donne, mais... C'est parmi tant d'autres.
Ça, là, vous avez tellement raison. Il y aurait vraiment... Je viens de finir des rénaux de salle de bain.
C'est vrai que
aussi, mon recherchiste normand commence à salle de bain. Puis quand il s'agit de la douche, c'est tellement alerte des douches.
C'est vrai.
Puis t'es toujours poigné avec les maudites portes.
Oui.
Imagine que tu fais 6 pieds 5.
Puis on n'a pas de place. Moi, Guy, je trouve que de toutes vos idées, c'est celle qui me parle le plus.
Ah, le dog, il est pas loin.
Nicolas, c'est le... Hey, merci beaucoup.
Tu prends un hot dog ou tu prends ta douche, je vais pas manger un hot dog.
Hey, merci beaucoup. Je vous parlais de cette série sur Netflix. C'est une série originale que vous pouvez trouver sur Netflix en ce moment qui a été lancée il y a pas très longtemps, qui décode vraiment ce qui se passe dans le cerveau de Bill Gates. Puis croyez-moi qu'il s'en passe des affaires. Puis hier soir, je regardais ça, puis je trouvais ça intéressant parce que ma fille de 16 ans aussi a regardé avec beaucoup d'intérêt. Puis on était les trois avec mon chum aussi fascinés par Bill. Puis, tu sais, on dit beaucoup de choses sur Bill Gates. Il y a d'ailleurs des sortes de complots comme quoi... c'est ridicule, comme tous les complots, mais toutes les théories de complots. Mais quand on regarde ce gars-là, qui a quitté Harvard pour aller partir à Microsoft, qui est peut-être, je me disais, il est peut-être border, même Asperger, parce qu'il est très focus.
Oui.
Mais c'est quand même quelqu'un qui, aujourd'hui, se pose des questions pour essayer de régler des gros problèmes sur la planète. Ça a même l'air... Moi, j'essaie de trouver, voir... Où est-ce que je peux voir qui a financé ça à part Netflix? Parce que je me dis, peut-être c'est sa fondation. Tellement, c'est comme... Tu regardes ça, puis tu dis, mon Dieu, mais c'est incroyable. T'sais, nous, on fait des petites affaires, finalement, dans nos vies.
Mais sa fondation est hallucinante. Là. Moi, je m'intéresse
de longtemps. Il a donné 27 % de sa fortune personnelle, un peu comme Warren Buffett l'a fait, son bon ami, d'ailleurs. Mais moi, je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce qui influence ces gens-là. Quels sont leurs moteurs à eux?
Mm-hmm. Ben c'est justement de redonner. J'en parle aussi dans mon livre où je dis, encore une fois, on revient aux entrepreneurs qu'on accuse aussi facilement, mais il y en a tellement qui restent sous les radars et qui font que justement le monde que nous avons aujourd'hui avec le meilleur de ce monde vient de ces gens-là qui y participent à cette richesse. Ils redonnent, mais ils redonnent aussi aux bonnes places, au niveau de la pauvreté d'ailleurs. Tu sais, les gens meurent de plus en plus parce qu'ils ont trop mangé que parce qu'ils n'ont pas à manger. Ouais. C'est quand même assez impressionnant.
Oui, mais ça, c'est dans le tiers monde qui est nous et non pas le reste de la planète.
Tout à fait.
Parce que le deux tiers de la planète, puis c'est très bien expliqué là-dedans, parce que c'est en même temps une série documentaire sur les inégalités. Puis tu en parles, Daniel, dans ton livre, il y a tout un long chapitre pour nous dire, ça se peut pas, tu parles de l'indice de Gini, qui nous montre qu'il y a de plus en plus de pauvres et les pauvres sont plus pauvres et les riches sont plus riches.
500 millions par jour que les pauvres perdent à tous les jours, c'est énorme. Plus 2,5 milliards par jour que les riches prennent. Donc oui, il y a une inégalité. Puis les gouvernements, je parle de tous les gouvernements, c'est pas juste le nôtre, doivent absolument commencer à mettre le pied à terre et dire il faut faire payer les géants qui viennent vendre chez nous, numéro un. Numéro deux, il faut aussi faire attention à fiscale. L'évasion fiscale. Il faut faire quelque chose. Et je pense qu'il est grand temps d'arrêter d'avoir peur de prendre des décisions pour les citoyens, pour la société, parce qu'on devient de plus en plus pauvre et on ne peut, un entrepreneur...
Mais toi, je t'entends dire ça, puis aujourd'hui, depuis ce matin, on entend des espèces de bilans avant même que le monde ait voté lundi, là, même s'il y a déjà à peu près le quart des gens qui ont mis leur X dans la petite case. Mais puis là, on est dans le bilan de finalement que là, ça a été une campagne pourrie où on nous a rien dit, où on nous a menés en bateau. Mais on a des représentants politiques qui ont l'air de pédaleurs de char.
Oui, mais comme... tu sais quoi? Le monde ne va pas voter. Moi, j'en parle tout le temps. Je reviens pas. Il y a des pays où ils font des lignes puis ils sont tirés dessus pour aller voter.
Absolument.
Ici, on ne va pas voter parce qu'il faut aller à la garderie. Écoute, j'ai des enfants, je vais à la garderie. Ils peuvent attendre 15 minutes. Là, voter, c'est important. D'ailleurs, tu votes aussi pour tes enfants d'une certaine manière.
Mais mettons que tu vas voter, là. Nicolas, tu votes pour qui? Tu votes pour le moindre mal.
Ben, tu comprends? Oui, mais t'as pas le choix aujourd'hui.
Excuse-moi, non, mais moi, je suis politologue de formation.
Oui,
mais dans le sens où ça m'a toujours intéressé, puis je reviens pas à quel point aujourd'hui la politique est devenue politisée et non devenue...
C'est une vocation. On fait de la politique pour changer les choses pour nos citoyens.
Ça devrait être ça.
Et moi, je ferais comme au Mexique, où tu as le droit à deux mandats de suite, puis après, il faut que tu partes un mandat dans la vraie vie pour savoir comment ça marche, puis revenir.
Oui.
Parce que là, le monde s'assoit, il y a des comtés, là. Il y a beaucoup de comtés où tu t'assois, puis d'après, tu peux partir à Las Vegas toute ta vie. Là. Tu vas te faire élire. Là. Tu sais, les comtés, des châteaux forts, comme ils appellent. Moi, je trouve ça inadmissible.
Mais écoute...
Ouais, mais il y a des pays où même un mandat, c'est déjà de trop. Tu sais.
Oui. oui, ça aurait pu être...
Je sens que ça finisse.
Ouais. Exactement.
Mais au-delà de ça, on est encore dans la politique, dans le cadre politique. Au-delà de ça, tu cherches... On a parlé de quoi, là, depuis un
moment? On fait de la micro-politique, hey, 200 piastres, là, 75 piastres.
Oui, c'est ça.
Je suis pas au dépanneur, là.
Non. Ce qu'il faut, en fin de compte, je crois, c'est que les citoyens, tu sais, dans tout, si on descend plus bas, municipal, OK? Tu me dis, je suis pas d'accord avec ce que ma ville vient de faire ou je suis pas. Mais est-ce que t'es allé assister à des conseils de municipaux, tu sais, qui se font peut-être une fois par mois? On me répond non. Mais alors, comment veux-tu que ta voix soit entendue? Comment veux-tu faire en sorte que tu changes le cours des choses? On a aujourd'hui pris l'habitude de voter contre quelque chose. Ouais. Je veux pas voter contre. Je veux voter pour mes convictions, mes opinions. Même,
tu dois avoir un méchant problème, alors.
Mais certains, mais non.
Avec l'offre sur la table.
Mais tu sais quoi? Je vais voter au mieux de mes connaissances, le moins pire de tous, parce que c'est ce que j'ai.
Mais
c'est parce que c'est tout ce que j'ai.
Mais tu confirmes ce que je disais tout à l'heure?
Il n'y a plus de débat de fond, il n'y a plus de rêve.
Mais je vais voter.
On vient de parler de la pauvreté dans le monde. Pas besoin d'aller bien loin.
Non!
Moi, la semaine prochaine, là, je suis marraine depuis des années d'un organisme, j'en parle souvent aux auditeurs, qui s'appelle le regroupement Partage.
Oui.
On travaille toute l'année comme des fous pour essayer d'aller trouver des petits montants qui vont aider, qui vont se rajouter à ce que Centraide nous donne un peu pour pouvoir sauver. Mais on touche des milliers de familles à Montréal qui vivent dans la pauvreté, dont le tiers sont composés d'enfants, pour qu'ils aient une rentrée scolaire qui ont du bon sens, pour qu'ils aient un petit peu l'impression de vivre une vie normale, puis qu'ils aient envie de pas décrocher puis de faire quelque chose dans la vie. C'est tellement compliqué. Il y en a des pauvres chez nous aussi.
Énorme.
À tous les niveaux. Pauvre en éducation.
On a parlé de ça, de la pauvreté?
Non. On n'a pas parlé d'éducation, vraiment. On n'a pas parlé de santé, vraiment.
Non, pas d'éducation, pas en tout.
Ah non, mais c'est ça. Moi, je reviens du Nouveau-Brunswick. Le premier sommet de l'éducation au Nouveau-Brunswick, c'est extraordinaire. C'est tout petit. Mais ce qu'ils ont décidé de faire, c'est rassembler tout le monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se disent, faut qu'on regarde tout ce qu'on fait de pas bon. Et ils ont tout mis sur la table et là où on veut aller d'ici un an. Et puis, je peux t'assurer qu'ils ont mis les vapeurs, à toute vapeur, parce qu'ils ont rassemblé les anglophones. Oui, les anglophones, les francophones, les élèves, les éducateurs, tous dans une même salle. Et que tout le monde dise qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire et qu'on se mette dans l'action. Mais nous, on se met pas dans l'action.
Ouais. On revient après la pause là-dessus. OK, on revient.
On sort sa politique, allez. Là.
Oh, ben, on ferait du bon travail.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise.
On est en compagnie de Danielle Henken, femme d'affaires, conférencière, auteure du livre « Ces différences qui nous rassemblent ». Nicolas Duvernois, entrepreneur, conférencier, qui vient de publier « Vive les idées folles ». Et bien sûr, on parle de ces idées qu'on peut avoir, mais qui sont pas forcément à mettre en pratique tout de suite, pour plein de raisons. D'abord, on n'a pas encore parlé d'argent, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je retiens quelque chose que j'ai lu dans ton livre, Nicolas. Tu disais, je suis quasiment content d'avoir commencé avec pas une scène.
Ah non, c'est
parce
le plus
que
beau
si
des
j'avais eu de l'argent, ça m'a parlé. Ça. Si j'avais eu de l'argent, j'aurais peut-être pas fait les choses de la façon dont je les ai faites pour avoir ces succès.
Mais parce que l'argent, c'est souvent un accélérateur. Tu as une idée, puis tout de suite, tu as l'argent pour acheter une machine ou de quoi que ce soit, ben, tu le fais tout de suite. Tandis que le filtre de la pauvreté entrepreneuriale, là, entre guillemets, là, le filtre de la vie, si ça te prend 2 ans à pouvoir financer ta machine, ben, ces 2 ans-là vont te permettre de fignoler ton idée, d'améliorer ton idée, puis d'être rendu, quand tu achètes la machine, à être presque sûr et certain que ce move-là, il est bon, il est intelligent, il est réfléchi. Donc, l'argent, ça, c'est incontournable en affaires, mais c'est très important, à mes yeux, au départ, de pas d'en avoir. C'est drôle à dire, mais c'est
parce que... Mais toi, comment t'as réussi avec... Parce que tu parles un peu des rondes de financement. On rentre dans le vrai sérieux de la business, c'est-à-dire comment t'arrives à rester... Toi, tu es toujours majoritaire avec ta conjointe dans ta business.
Exactement.
C'est déjà un tour de force.
Ça, c'est un gros problème au Québec. OK? Les rondes de financement que je vois, les Américains, ils sont prêts. Nous, demain matin, on va à un groupe américain. J'en appelle 10. Ils nous achètent. Mm-hmm. C'est super compliqué de garder son entreprise québécoise. Ouais, ouais. Parce qu'il y a de l'argent dans le monde à investir. Pas à peu près. Nous, on vit dans une
Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as des actionnaires, en général, ils veulent ton bien et tout ton bien. Tu comprends?
Oui.
Et d'ailleurs, ils ont bien écouté les dragons. Parce que moi, ce qui m'ennuie dans cette émission, pour pas dire qu'ils me gossent, c'est des fois quand je vois un dragon, puis je dis pas forcément vous, mais il y en a qui sont... Vous êtes plutôt des gentils dragons. Mais il y en a qui sont assez... je vais prendre 50 % de ta compagnie pour 20 000 piastres. T'as envie de dire, excuse-moi, chose.
Ben, tu sais quoi? Moi, j'ai une
année... Moi, c'est comme jamais de la vie. Viens travailler avec moi. Tu vas voir, voyons, garde ton cash, 20 000 piastres. Non.
Plusieurs fois, moi, j'ai dit au dragon...
Écoute, pas besoin de moi.
Ben, c'est parce que je me sens mal. C'est eux, hein, c'est les jeunes, entre guillemets.
50 % d'une entreprise.
Ouais, ce qu'ils offrent, des fois, c'est trop. C'est comme, non, je veux pas. J'aimerais t'aider, mais bénévolement, je peux pas prendre 25 % 30 % de ton entreprise. Quand tu commences, il y a 3 mois à vendre des chaussettes ou je sais pas quoi. Là,
Daniel? Ce qu'il faut,
j'ai eu les deux. J'ai investi dans plusieurs entreprises et des petites entreprises, surtout en région et quelquefois seulement dirigées par des femmes. Mais ce que je leur disais, c'est que en bout de ligne, ce qu'elles souhaitent le plus, parce que quand tu passes à l'émission, il faut que tu demandes de l'argent, mais en réalité, c'est pas de l'argent dont elles avaient besoin, c'est beaucoup de mentorat.
Ouais.
C'est de l'accompagnement, la compréhension de ce déroulement-là.
Carnet d'adresses.
D'ouvrir les portes.
D'ouvrir les portes et puis de faciliter la compréhension, parce qu'on l'a vécu, nous, on est tombés, on s'est relevés, on sait que peut-être ce réseau de distribution est pas le bon. Mais quelquefois, par contre, je m'excuse, il faut prendre le contrôle parce que tu te rends compte que l'entrepreneur a du potentiel, mais n'a pas suffisamment la compréhension de ce que ça exige de diriger. Oui. Donc là, tu as une discussion, un dialogue avec ça. Et si la personne n'est pas confortable, tu te retires. Mais si elle est confortable, c'est un gentleman agreement. C'est correct avec les deux. C'est du business, c'est tout.
Et Nicolas, vas-y. Souvent, on veut ce qu'on n'a pas. Et l'argent, quand on n'a pas, t'en veux en affaires. Puis quand t'en as, nous, ça nous a pris 3 ans pour ouvrir les États-Unis parce qu'on trouvait pas un importateur qui fitait selon nos valeurs puis selon ce qu'on voulait faire. Ben finalement, on en avait de l'argent en banque, là. Mais je le trouve pas. Fait que, tu sais, c'est pas toujours la seule et unique réponse. Et combien d'entreprises, regardez WeWork, pas l'argent qui manque.
Non.
Ben, ça va faire faillite.
Exact.
Parce que l'argent, là, c'est ce que tu fais avec. C'est pas combien t'en as.
Mais il faut quand même être rentable à un moment donné.
Obligatoire.
Il faut être rentable.
C'est ça qui est fascinant dans les fameuses grosses entreprises dont on vend beaucoup les mérites. Comme Amazon.
Elles sont subventionnées.
C'est des bulles.
Elles ne sont pas rentables.
Mais elles sont.
C'est ça qui est fascinant.
Mais il y a
comment
tellement...
ça se fait? T'sais?
C'est des bulles. Tellement...
Mais oui, c'est des bulles.
À chaque 10 ans, il y a des bulles, puis on est surpris qu'il y ait une bulle.
Ouais.
Une entreprise ne peut pas perdre 300, 400, 500 millions par mois, comme Uber. Puis que tout le monde se garoche pour investir. J'investirais dans la confiture de myrtille à la place.
À l'époque, on aurait pu appeler Bombardier puis leur rappeler ce que tu viens de dire.
Mais le côté ferroviaire, c'est triste parce que ça va bien, eux, de ce côté-là.
On n'avait pas d'action. Oh, c'est plate.
Il y a tellement de choses dans lesquelles on peut investir qui vont rapporter. C'est les transports.
Et là, on va être obligé d'aller à la pause maintenant. Mais au retour, mesdames et messieurs.
On va faire la pub.
Non, mais attendez. Moi, j'ai pas perdu l'idée de tout à l'heure.
Ouais.
Parce que Nicolas Duvernois et Daniel Henkel aussi nous ont dit qu'ils avaient des propositions à vous faire. Ils se cherchent des business partners. Des partenaires d'affaires. Alors, ils nous disent tout ça après la pause. Tenez-vous bien prêts. Mes invités, Daniel Henkel, Nicolas Duvernois, deux personnes qu'on aime parce que ce sont des entrepreneurs qui réussissent et qui sont généreux. Moi, j'aime les gens généreux qui parlent avec leur cœur et c'est ce que vous faites ce matin. Là, vous cherchez des partenaires, alors on écoute encore plus avec plein d'intérêt. Nicolas Duvernois, bon. Qu'a-t-il à proposer?
Bon, moi, ça va. Ma femme, toutes les personnes à mon bureau vont rire, mais moi, je cherche à réinventer le micro-ondes. Quoi de plus insultant? Hier soir,
Daniel a ri, pas moi.
Histoire véridique.
Vas-y, parce que je m'attendais pas à ça.
35 secondes, mon pâté chinois fait maison avec amour par ma femme, dans le micro-ondes, je le sors, il est froid. Fait que je me suis dit, je vais le mettre 35 secondes de plus. Je le sors, il est calciné. Tu sais, il me semble que le micro-ondes, c'est bipolaire. Soit c'est froid, tu mets 2 secondes de plus, il disparaît, ça explose, Hydro-Québec débarque. Moi, je veux un micro-ondes intelligent qui envoie une sonde là, dans la bouffe que je veux manger et qui me donne 3 options. Plus ou moins froid, correct, plus ou moins chaud. Puis j'appuie sur 1, puis et voilà, c'est
moi,
fait.
Moi, j'ai une suggestion d'affaires pour toi. Moi, je dirais, change de micro-ondes, magazine, fais une petite étude de marché de micro-ondes, parce que ce que tu aimerais, je crois que ça existe, sur le
déjà,
marché.
Ça existe.
Non, mais là, ça change ma vie, c'est
mais,
ça. Là.
Non, mais je veux pas dégonfler ta ballonne de dragon, mais ça existe.
Sérieusement, ça existe.
C'est juste qu'il faut pas être chipette, puis un micro-ondes à 99$.
Non, le pire, c'est pas ça. C'est vrai, je pourrais mettre mon pâté chinois, puis il sort température pâté chinois.
OK, ben c'était tout le temps que vous aviez, monsieur Duvernois. Daniel Henkel, t'as-tu une bonne idée?
Oui, ben la seule bonne idée que j'ai toujours eue et laquelle je vais encore continuer de te taper dessus, quand on parle de partenariat, ce que je dirais, c'est que nos consommateurs doivent devenir des partenaires de nos entreprises locales, de nous encourager.
C'est que dans le concret, ça veut dire quoi? On est bien concrets, nous autres, ici.
Moi, je suis très concrète, c'est allez donc acheter des produits et les services des entreprises locales parce que vous enrichissez les autres et vous nous appauvrissez. De toutes les façons, vous allez devoir acheter des produits. Daniel
Henkel. OK, attends, là j'entends la voix de beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais ça coûte cher. »
C'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. C'est ça qui est problématique. Parce que, regarde, je vais me permettre, je pense que je vais peut-être soulever la conscience un petit peu de nos jeunes qui sont extraordinaires. Ils sont sortis dans les rues pour le climat. Mais quand ils sont rentrés ce soir-là chez eux, la première des choses peut-être qu'ils font, c'est de peser sur le bouton pour aller acheter quelque chose sur Kijiji ou Amazon. Ben là, ils viennent, les GES, les gaz à effet de serre, bonjour la famille. Ouais. Donc, c'est une conscience que je demande.
Nicolas, toi aussi,
acheter
tu
un
dis...
produit d'ici, c'est un investissement. Acheter un produit d'ailleurs, c'est une dépense.
Bravo.
Point final.
Bravo.
T'as-tu une autre idée quand même? On est intéressé.
Acheter une équipe de la NBA. Si quelqu'un a quelques milliards à me prêter, ça, j'aimerais bien une équipe de basket à Montréal.
Hey, le baseball, ça t'intéresse
aucunement,
pas, toi?
Aucunement. Moi, m'asseoir 8 heures, voir du monde, manger
des peanuts,
je sais pas quoi.
Mais t'as pas ton ami là, qui est dedans, ami? Là...
Mitch Gomber, j'espère qu'il va l'avoir son équipe avec M. Bronfman. Mais moi, le basket, c'est un sport familial, c'est un show. On a déjà le Centre Bell qui peut recevoir des matchs de basket. Il me semble... Et puis, c'est un des rares sports qui est international. Dans tous les pays, on joue au basket.
Tout, c'est parce que t'es jaloux de Toronto.
Oui, exactement. T'as tout compris. Je veux ramener le pouvoir de Toronto à Montréal.
Mais pourquoi pas? Ouais. Il faut des idées folles.
Ben, il faut, ça, c'est sûr.
Il nous reste 1 minute et demie. Vos conseils pour les gens qui ont des idées. Puis, tu sais, je pensais à Guy, qui son affaire de douche, il tient peut-être quelque chose. Ouais. Puis, peut-être son pinceau à 2 peintures. Ouais. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir des idées, de ne pas s'endormir.
Ben, c'est d'aller faire des recherches. Ouais. Parce que, comme tu disais tout à l'heure à Nicolas, tu vas le trouver, ton micro. Mais c'est vrai, c'est d'aller faire des recherches. Peut-être il y a des gens qui sont payés au gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral.
Oui,
qui... Non, mais il y a vraiment de plus en plus de portails qui donnent des informations intéressantes et tu peux aussi pogner. Ils sont payés pour ça. Allez donc utiliser les gens parce que souvent, on continue de passer à une autre idée, mais on n'a pas fini avec la bonne.
Et puis tu dis, Nicolas, dans ton livre, les pitchs les plus concis et les plus clairs sont toujours les meilleurs. Ouais. L'idée est simple, vous devez nous donner envie de faire partie de votre équipe et de trôner avec vous au sommet du monde. Tu dis, 1, faites-nous rêver. 2, soyez curieux. 3, soyez un as des chiffres, quand même. Ça, il faut quand même savoir comment compter. 4, soyez réaliste aussi.
Ouais. Ben, parce que c'est, moi, je crois qu'il peut avoir un compétiteur à Amazon. Mais si tu arrives devant moi et tu as une idée sur papier de te lancer en affaires puis tu te dis, tu sais, dans 4 ans, moi, je bats Amazon. Permettre de douter?
Non. Absolument.
C'est juste ça. Parce qu'il y a du monde
qui... devoirs.
J'adore l'agressivité positive là, en affaires, de vouloir conquérir le monde. Mais il y a le vouloir et puis il y a prouve-moi que tu as le chemin ou la recette parfaite pour atteindre ton objectif.
Démontre-moi que tu as fait ton travail, que tu as pavé le chemin, que tu y as pensé. Tu sais, c'est juste
donc,
ça.
Il faut se préparer, il faut bien
réfléchir. Il faut être préparé, il faut être sérieux dans notre approche.
L'importance du plan d'affaires.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Ben, les plans d'affaires aujourd'hui.
Non, mais d'accord. Un plan d'affaires.
Ouais, Daniel écrit ça dans son livre. Ouais. Avant, on me demandait des plans quinquennaux. Aujourd'hui, dans trois ans, c'est pas
du tout. C'est même pas demain.
Savoir où tu vas.
Ouais. Ça, oui.
Faut se faire des projections. Ouais. Quand
tout
même.
À fait.
Je vais aller m'acheter un micro-ondes, là.
Ouais. En tout cas,
je suis désolée d'avoir.
Non, mais je suis sûre que c'est pas comme je le pensais. C'est pas grave.
Sans doute pas. C'est ça.
C'est comme à vodka. Il y avait d'autres vodka, mais j'ai fait la meilleure. Je vais faire un meilleur micro-ondes.
Tu peux faire un micro-ondes roulant. Tu mets des roues en dessous. Moi, j'en tiens ça. Mettez des roues en dessous de
ma. Qui passe à travers un mur.
Ouais, pourquoi pas? Hey, merci à vous deux.
Est-ce que je peux terminer?
C'est fini.